Bonjour à toutes et à tous. Alors, je remercie la SFPI, représentée par Magali Cipriani-Bouvard, sa présidente, de me faire l'honneur et l'amitié de m'avoir demandé de rendre hommage à Jean-Michel Fourcade. Je partage avec vous comme il est difficile et émouvant de parler d'un ami très cher et de celui qui a contribué à former nombre d'entre nous et de l'évoquer désormais au passé. Cela m'aide de penser qu'il serait ému et surtout très heureux de nous voir tous réunis pour ce cinquième colloque de la SFPI. Et je ne peux m'empêcher de me souvenir que c'est probablement le seul président d'une société de psychanalyse à avoir proposé à l'Assemblée lors d'un colloque de faire une hola. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Jean-Michel est décédé d'un cancer quelques semaines avant ses 77 ans, au petit matin du 13 avril 2020 à la maison Jeanne Garnier, lors de ce que nous appelons aujourd'hui le premier confinement. Son état de santé s'était aggravé, une nouvelle fois aggravé, une dizaine de jours avant, et il avait dû être transporté en urgence à l'hôpital. Dans le chaos qui régnait dans les hôpitaux à ce moment-là, consignes de visites contradictoires jusqu'à leur interdiction, transformation des hôpitaux en bunkers qui ont privé tant de personnes d'être accompagnées par leurs proches, Jean-Michel a pu rejoindre au bout d'une semaine interminable un lieu où les gestes d'humanité ont toujours prévalu sur les consignes sanitaires. Cela est difficile pour moi de parler de lui, de ce qu'il m'a laissé, nous a laissé, et je me suis demandé au nom de quoi je pouvais m'exprimer. Comment parler de lui, moi qui l'ai connu alors qu'il avait déjà 60 ans? Comment parler de ce qui s'est inscrit en moi, de son héritage intellectuel et humain? Marie Balmary, dont il admirait l'ouvrage « L'homme au statut, Freud et la faute cachée du père », avait l'habitude de dire « Lorsqu'un patient arrive dans mon cabinet, c'est une énigme. Lorsqu'il en sort, c'est un mystère. » Je dirais que Jean-Michel reste par bien des aspects une énigme et un mystère pour moi. En relisant ce que j'avais écrit, je ne pouvais que reconnaître à quel point mon récit était empreint de ma propre subjectivité, d'approximation, sûrement d'erreurs et d'omissions, plus ou moins conscientes, et qui sait, de fantasmes. Mon intention n'est pas de vous dire qui il était ou comment il a vécu, ou de faire une conférence sur le plan théorique, mais peut-être par touche, de partager quelques éléments de sa vie et de ma compréhension de ce qu'a été sa contribution à la pratique psychothérapeutique et psychanalytique. Une journée d'hommage intellectuel, dont Magali a parlé tout à l'heure, est en cours d'organisation et aura lieu le 21 janvier 2022. Certains de ses amis de longue date, psychanalystes, psychothérapeutes, sociologues, viendront témoigner de leur aventure intellectuelle et militante avec lui. Les bénéfices de la vente des deux publications que vous trouverez là, juste derrière vous, et qui rassemblent ses écrits sur l'art, ainsi que certaines de ses interventions à des colloques ou séminaires, permettront de contribuer à financer cette journée. Évoquer la vie de Jean-Michel, c'est se retourner sur l'histoire d'un jeune homme de province qui rêvait de fuir une petite ville des Landes, ainsi que sur l'histoire de la psychothérapie en France depuis les années 70. Jean-Michel Fourcade est né à Dax, le 3 mai 43, et l'aîné de sa fratrie. Son père, originaire des Landes, est issu d'une famille de la grande bourgeoisie catholique traditionnelle qui avait eu de sévères revers de fortune. Son père possède un cabinet d'expertise comptable à Dax. Sa mère dirige les cours Pigier qu'elle a créés dans la région. Elle est originaire de la grande bourgeoisie belge, athée, cultivée et désargentée. Jean-Michel évoquera quelquefois les échos des combats héroïques de sa mère pour défendre ses élèves et pour recevoir la reconnaissance et le respect de ses confrères et consœurs à une époque où l'enseignement privé, confessionnel ou non, avait des relations difficiles avec l'enseignement public. Cela rappelle sûrement des choses à certains d'entre vous. C'est donc à Dax et dans leur maison de villégiature de Sokoa que Jean-Michel passa son enfance. Il dit avoir été un adolescent passionné d'art, de littérature et de poésie. C'est ce dont témoignent les poèmes de ses 15 ans qui lui vaudront d'être primé à un célèbre concours régional de poésie. Brillant élève, son choix se porte d'abord sur HEC, dont il sort diplômé en 1967, étude approuvée par ses parents, qui le destinaient à reprendre le cabinet d'expertise comptable paternelle et qui avait surtout l'immense avantage de lui permettre de monter à Paris et de quitter Dax, et si j'osais dire, une certaine emprise maternelle. Sa curiosité, sa soif d'apprendre, sa sensibilité l'éloignent très vite du projet parental. Licencié en droit, il obtient également un DES de philosophie, il dira plutôt sociologie, sous la direction de Raymond Aron. Très tôt, il témoigne de son intérêt pour la compréhension, articulant facteurs sociaux et psychosociaux, économiques, historiques et religieux. À la sortie d'HEC, il est chargé d'études au ministère des Affaires culturelles sous André Malraux, puis participe à la réorganisation des études d'architecture. Alors qu'il rejoint le département des sciences humaines du CESA, où il enseigne pendant 10 ans, il fait la découverte de la contre-culture californienne, de la psychologie humaniste, des Salènes où il séjourne, des T-Group. Il ne résiste pas à ce vent de liberté qui souffle à cette époque. Il y découvre le travail émotionnel, le travail de groupe, ainsi que les psychothérapies corporelles. Il se forme au travail bioénergétique et au travail en piscine avec Jean-Pierre Acos et Paul Bindrim et cofonde en 1972 le Centre de développement du potentiel humain, CDPH, qui contribuera à introduire en France ce qu'on appelait alors les nouvelles thérapies. Son cheminement thérapeutique, d'abord tourné vers l'analyse bioénergétique avec Jean-Pierre Acos, le conduit ensuite à faire une analyse qui dure 10 ans avec un psychanalyste lacanien, Lucien Coq, et il poursuivra sa formation d'analyste au champ psychanalytique et social. Il publie son premier ouvrage en 1981 sur la psychothérapie avec son ami Vincent Lénart. Cela lui permet de développer les articulations entre deux théories et deux techniques psychothérapeutiques, l'analyse transactionnelle et la bioénergie. Soutenu par Max Pagès, dont il fut un des deux fils spirituels avec Vincent de Gaulé-Jacques, il soutient sa thèse en psychologie clinique alors qu'il a 51 ans, intitulée « La psychothérapie émotionnelle des patients limites ». Il fut le dernier doctorant de Max Pagès et sa coquetterie lui faisait dire sa fierté d'avoir obtenu la mention très honorable à l'unanimité assortie des félicitations du jury. Cette thèse fera l'objet d'un ouvrage publié en 1997, « Les patients limites » chez Desclébreur, réédité en 2010, puis sa réflexion sur les patients limites le conduira à publier en 2011 un ouvrage intitulé « Les personnalités limites ». Certains connaissent la suite. Au CDPH succédera la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur, la Faculté libre de développement et de psychothérapie en 1991, devenue nouvelle faculté libre en 2000. Cette aventure durera presque 50 ans. Jean-Michel hébergera la NFL et dirigera également le groupe de recherche créé par Max Pagès en 1982 dans le cadre du laboratoire de psychologie clinique de l'Université Paris 7, d'abord groupe de recherche sur l'émotion, puis sur la psychothérapie comme pratique complexe, il réunissait des praticiens et des chercheurs expérimentés appartenant à différentes écoles de pensée qui confrontaient et interrogeaient leurs théories et leurs pratiques au-delà de leur étiquette professionnelle et institutionnelle. Ils se sont réunis pendant près de 30 ans. Outre Max Pagès, il y a eu ses amis Bernadette Pagès, Alain Amselec, le professeur Jacqueline Barus-Michel, Jacques Digneton, le docteur Manuel Garcia-Barroso, le professeur Edmond Marc. La FLDP puis la NFL ont été ainsi porteuses d'une psychanalyse intégrative qui s'était définie pendant 20 ans à la confluence des psychanalyses, des thérapies psychocorporelles et émotionnelles et de la sociologie clinique. Après la disparition de la NFL, après le décès de Jean-Michel, tous les enseignants, professeurs d'université, psychanalystes, psychiatres, psychologues cliniciens, psychopraticiens, psychothérapeutes, reconnaissent que nous avons perdu un haut lieu de formation de thérapeutes. Nous n'oublions pas non plus que Jean-Michel fut chargé du cours sur les psychothérapies humanistes en Master 2 de psychologie clinique à Paris 8 entre 2001 et 2010. Attaché à l'enseignement privé et la liberté d'enseignement, tout en ayant à cœur d'organiser la formation de psychothérapeutes, il fut un acteur majeur de l'organisation de la profession. Il fut ainsi l'un des cofondateurs de la FFDP, devenue FF2P, ainsi que du SNPPSI, puis en 1999 de la FOP, dont il fut le président pendant 16 ans. Il participa également activement, avec l'issue malheureuse que nous connaissons, aux travaux avec le ministère de la Santé pour la préparation de la loi créant le titre professionnel de psychothérapeute et de ses décrets d'application. Ce combat perdu fut une épreuve douloureuse pour lui qui fut, comme bien d'autres, dépossédé d'un titre qu'il avait contribué à incarner toute sa vie de thérapeute. Alors, ces quelques repères biographiques posés, je vous propose d'illustrer juste quelques éléments de sa pensée en évoquant deux écrits dans lesquels Jean-Michel Fourcade pose explicitement le thème de la sexualité. Le premier, écrit en 2006 sur le tondeau donné de Michel-Ange, dans lequel il fait œuvre à la fois de psychanalyste, de sociologue et d'historien de l'art. Alors, pas pour, si vous connaissez le tondeau donné, c'est le tableau circulaire qui se trouve aux offices à Florence et qui représente la Sainte Famille, où Joseph passe l'enfant Jésus à Marie. Il y a un muret, et derrière le muret, il y a Saint-Jean-Baptiste, et encore en arrière-plan, il y a des jeunes hommes nus. Alors, il se montre sensible à l'œuvre intime et poétique de Michel-Ange, qui, dit-il, nous parle de souffrance et d'amour-passion, ainsi que d'une sexualité à laquelle Michel-Ange ne peut résister malgré sa notion du péché. Il y décrit sa nature très angoissée et cyclothémique, et fait même l'hypothèse de la dimension limite de la personnalité de Michel-Ange. Dans le second article, il souligne à quel point c'est la dimension éminemment... Alors, je vous ai raté quelque chose, que je vous ai parlé du tondeau donné, mais le deuxième article, je ne vous ai pas dit quel était le deuxième article. Donc, dans le deuxième article, c'est un article de 2010 qui s'appelle « Hétérosexualité, homosexualité, transsexualité, une compréhension limite ». Donc, dans ce second article, il souligne à quel point c'est la dimension éminemment socioculturelle et historique, tant de l'organisation psychique que de l'organisation sexuelle, qui l'emporte sur la dimension psychologique, comme facteur explicatif de l'homosexualité. Il évoque que l'étude de la sexualité qu'il fait aujourd'hui lui permet d'affirmer que le choix d'objet normal pour la réalisation de la pulsion sexuelle est plus fluide que ne l'a admis la psychanalyse classique. La diversité des objets sexuels a donc perdu son caractère obligatoire de perversion. Ce qui conduit également à ce que derrière ce qu'on désigne globalement comme homosexualité, se répartissent de facto plusieurs positions subjectives bien distinctes qui sont à saisir comme autant de formes d'homosexualité différentes. Alors, ces deux articles illustrent d'abord le cadre épistémologique dans lequel Jean-Michel Fourcade s'inscrit. Jean-Michel a été très tôt sensible à la nécessité d'un travail de clarification épistémologique qui sous-tend sa pratique de thérapeute, sans en sous-estimer sa difficulté, tant il engage un travail identitaire concernant des groupes et des individus et nous fait éprouver les limites de chacun de nos modèles. Jean-Michel est l'héritier du constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu, de l'épistémologie de la complexité d'Edgar Morin et des développements qu'en a fait Max Pagès en psychologie, Vincent de Goléjac en sociologie clinique ainsi qu'Edmond Marc. Héritier aussi du mouvement culturaliste de Karen Horney et de l'histoire des mentalités avec Philippe Ariès et Michel Foucault. En tant que psychanalyste, il pouvait se réclamer de Freud, bien sûr, de Winnicott, de Mélanie Klein, et également du courant reichien avec ses successeurs Lowen et Pierakos. Je citerai aussi Baline, Kernberg et son maître en psychopathologie, Jean Bergeret. Jean-Michel Fourcade se situe résolument d'abord dans le cadre épistémologique de la relation à l'inconscient. Il parlera d'ailleurs des multiples approches de l'inconscient, de la même façon qu'il insistera toute sa vie pour parler des psychanalyses et non pas de la psychanalyse. Il s'est élevé très tôt dans sa pratique contre les métathéories globalisantes et a défendu, à la suite de Max Pagès, le modèle selon lequel l'être humain est un système de systèmes et à en définir quatre, corporel, émotionnel, langagier et socio-familial. Chaque système est en interaction constante et s'étayant entre eux à chaque stade du développement du psychisme. Pour lui, le bon thérapeute était celui qui pouvait travailler à chacun de ses niveaux et passer d'un niveau à l'autre. Lors de l'une de nos toutes dernières discussions cliniques, alors qu'il était bien éprouvé par la maladie, il s'insurgeait contre l'idée que la compréhension intellectuelle analytique ne guérit pas, et donc ce qui guérit, ce serait forcément le travail émotionnel et corporel. Non, disait-il, tout ça guérit, si c'est utilisé de manière adéquate, au bon moment, dans le travail interrelationnel entre l'analyste et le groupe ou l'analyste et le patient. Tout guérit. Le mot ou l'interprétation juste, l'émotion, la régression, la progression pour sortir de la régression. Ce qui nous guide, c'est notre compréhension de ce que l'on a, de l'état de régression dans lequel se trouve notre patient. Nous retrouvons ici la question de la régression dont il a été un fin théoricien et que ses recherches sur la relation entre la compréhension sensible et le travail émotionnel et corporel en psychothérapie l'avaient conduit à envisager sous un jour nouveau, jusqu'à en faire une pierre angulaire pour dépasser l'opposition simpliste entre la psychanalyse et les nouvelles thérapies. Ces deux articles témoignent également de son intérêt pour la clinique des patients limites, dont il a été, comme Elisabeth Roudinesco le souligne dans son texte d'hommage, l'un des meilleurs cliniciens. Nous nous rappelons que c'est notamment la clinique des patients limites qui l'avait amené à réfléchir sur l'articulation des théories psychanalytiques et des théories psychocorporelles et sur les aménagements du cadre de la cure analytique en privilégiant un dispositif alliant le travail individuel, groupal et corporel. Il préconisait aussi la mise en place d'une relation fondée sur l'émotionnel et le corporel, en pouvant lever temporairement les règles de l'abstinence et l'interdit du toucher. Il pouvait aussi s'enorgueillir d'être celui qui a montré que la structuration psychique des organisations limites est un référent psychologique plus pertinent que l'organisation névrotique pour comprendre l'hypermodernité psychique, sa dimension narcissique et son absence de limites. À la suite des travaux de Nicole Aubert, Jean Cournu et l'analyse des caractéristiques de l'homme hypermoderne, Jean-Michel arrivera à la conclusion que l'organisation psychique limite et l'organisation psychique normale résultant de la société occidentale actuelle, comme l'organisation psychique névrotique hétérosexuelle était l'organisation psychique normale produite par la même société occidentale patriarcale du XXe siècle et des premiers tiers du XIXe siècle et des deux premiers tiers du XXe siècle. Ceci l'aura donc conduit à parler de personnalité limite à la place de patient limite, dénomination trop connotée selon lui par une notion de pathologie. Je terminerai ce bref exposé théorique en rappelant que le concept de psychanalyse intégrative est ainsi issu d'un long travail sur la notion de psychothérapie intégrative dont la forme la plus élaborée s'exprime dans l'épistémologie de la complexité. Je me permets d'en rappeler les grands axiomes développés par Jean-Michel Fourcade. L'existence de l'inconscient comme organisateur central des théories descriptives du fonctionnement humain et de la clinique, la relation thérapeutique dans le transfert et le contre-transfert élargie aux aspects multiples de champs relationnels, la nécessaire adaptation de la technique selon la problématique du patient, son état de régression et le moment de la co-construction de la relation patient-thérapeute. Que vous dire pour conclure cet hommage ? J'ai relu le livre de condoléances des obsèques de Jean-Michel. Des mots reviennent fréquemment sous la plume de ses amis, étudiants, consoeurs et confrères, anciens patients, générosité, confiance, grande qualité intellectuelle et humaine, érudition, humilité, présence chaleureuse, impliquée, compréhensive et tonifiante, intelligence de cœur, un homme sensible, passionné, rare, plein d'humour, un esthète, un didacticien d'exception à l'intuition fulgurante, un passeur d'exception. J'ai relu également le texte écrit par François Coudray dans la revue des psychothérapies psychanalytiques de groupe à l'occasion de la réédition de son ouvrage « Les patients limites, psychanalyse intégrative et psychothérapie » en 2010. Il parle d'une clinique innovante, d'un clinicien savant et ouvert, dont l'honnêteté intellectuelle et la rigueur n'ont d'égal que son talent didactique et son absence de pédantisme. Nous le reconnaissons dans ces mots. Généreux dans son élaboration théorique, il savait l'être aussi avec ses patients et ses amis. Chacun peut témoigner de son écoute et de sa présence avec ses patients comme du bonheur d'échanger avec lui. Il était un artiste de la relation. Il savait vous accueillir en vous donnant le sentiment que vous étiez important pour lui et témoigner d'une sincère curiosité et attention pour les autres. Il savait encourager chacun à exercer sa liberté d'être. Il était curieux des nouvelles générations et des enjeux de notre société. En témoigne son dernier projet d'article inachevé sur l'anxiété due à la peur de la dégradation des conditions climatiques. Puis, il était un homme gai, joyeux, toujours prêt à rire et à profiter de la vie. Son énergie de vie était stupéfiante et communicative. Il voyait aussi grand, quelquefois au prix d'une certaine imprudence, et la maladie a pu, à certains moments, altérer son jugement. Il pouvait être secret et attaché farouchement à son indépendance. Blessé dans sa vie d'homme et de père, il se confiait avec parcimonie. Il avait été aussi à l'aise au Danieli, à la Villa San Michele à Florence, ou sur les plages du Lido, menant grand train comme dans un petit studio d'une rue du Sentier. Nous étions ensemble lors du déménagement de son école et son cabinet de la rue Beauregard à la rue Bleue en août 2014. Il devait faire du tri dans ses papiers, dont certains dataient de ses études à HEC. Il redécouvrait des choses qu'il avait rédigées au fur et à mesure des années et qu'il avait oubliées, entrées dans l'oubli en lui, disait-il, comme une disparition interne, une entrée inconsciente dans le néant. Il jeta aussi avec colère quelques devoirs de droit et de compta, corrigés avec des notes moyennes. Il repensait à de nombreuses personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie. Il me disait à quel point ces gens étaient merveilleux et du regret de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait pour garder des liens. J'ai avancé en perdant beaucoup, m'avait-il dit. Le collectionneur qu'il avait été pouvait vivre entouré de multitudes d'objets d'art, de porcelaine, d'argenterie, et passer des heures dans son cabinet sans lumière du jour au Beauregard, ou bien par la suite son cabinet face à la tour Eiffel, habitant un désordre inouï, l'ordonnant sûrement par la pensée, au milieu des objets, des livres, des mémoires d'étudiants, de ses notes de séance, de papiers en tout genre. Il emporte avec lui des centaines d'histoires de patients. En repensant à cette période, je me suis dit qu'il m'a appris comment il est difficile de trouver quelquefois une position éthique quand nos facultés d'analyste nous trahissent et de faire face aux perturbations narcissiques provoquées par la maladie. Je me suis demandé si le psychanalyste était plus que d'autres préparé à la mort, je n'en suis pas sûre. Peut-être que notre position d'analyste nous demande de poser une parole qui contient notre mortalité et qui permet à nos patients de tenir face à la disparition. Sur le chemin du deuil de lui-même, je peux témoigner que l'amour a été plus fort que les pulsions destructrices et qu'il a su supporter le chagrin d'avoir à quitter la vie avec regret, mais sans peur. Toute sa vie de thérapeute et d'enseignant, il a eu à cœur de faire cohabiter et dialoguer des thérapeutes d'orientations différentes et des professionnels d'autres champs disciplinaires connexes de la psychothérapie et de la psychanalyse. Il nous a encouragés à nous engager dans des débats qui remettent en cause nos appartenances, nos choix épistémologiques et théoriques. Ce colloque témoigne de cet héritage. Je voudrais conclure cet hommage en lui donnant la parole, en partageant avec vous ces quelques mots qu'il prononça il y a plusieurs décennies, à la fin d'un colloque, et qui peuvent nous inspirer face à ce que nous vivons quelquefois dans notre société, dérive du scientisme et du tout biologique, instrumentalisation de l'humain, marchandisation de la culture comme du soin, quasi-terrorisme de l'évaluation. Donc je le cite. Il est de notre devoir d'être ambitieux, de nous poser des questions, toutes les questions, les plus pertinentes, les plus insolentes, comme de les poser aux sciences, aux arts et aux religions, pour faire progresser notre compréhension de nous-mêmes, de l'autre, de l'homme, de l'humanité, de sa place dans l'univers. En cela, nous sommes dans la tradition de cette recherche du savoir, de cette éthique de la générosité et de la tolérance qui ont pris naissance dans cette vieille Europe, quelque part en Grèce et ailleurs, longtemps avant, en Inde et en Chine. En cela, nous aurons le droit de nous appeler humanistes. En cela, nous appartiendrons à cette communauté qui, par-delà le temps, nous unit à ceux qui nous ont transmis ces mêmes valeurs. À lui, aujourd'hui, je nous sens unis. Il a rejoint nos aînés, femmes et hommes, qui nous inspirent chaque jour dans notre métier de thérapeute. Je vous remercie.